Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer sur les versets 1 à 5 de la sainte sourate Qadr. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر
بسم الله وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل سلام هي حتى مطلع الفجر ورق الله العلي العظيم.
Oui, nous avons fait descendre ceci, la nuit de la détermination. Et qui te dira ce qu'est la nuit de la détermination? La nuit de la détermination est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges, ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur. Avec chaque commandement, une paix. Cela jusqu'à l'apparition de l'aube.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le mardi 1er Farvardin 1402 du calendrier iranien, 21 mars 2023. C'est le premier jour du printemps et aussi le jour de l'an du calendrier iranien. Nous félicitons l'arrivée du printemps et Nowruz, la fête iranienne, à tous nos chers auditeurs. Nowruz 1402-2023. Contrôle de l'inflation. Croissance de la production nationale, slogan du nouvel an iranien. Le plan du gouvernement du président Raisi pour la nouvelle année iranienne est de contrôler l'inflation et d'agir pour la croissance économique. Et selon l'Algérie, l'accord irano-saoudien renforce la défense de la cause palestinienne. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, dans un message vidéo de vœux à l'occasion du nouvel an iranien, a annoncé le slogan de la nouvelle année, qu'est le contrôle de l'inflation et la croissance de la production nationale. L'honorable Ayatollah Khamenei a déclaré qu'il y avait eu des épisodes doux et amers sur plan politique et économique au cours de l'année civile iranienne écoulée. Le très haut dignitaire iranien a déclaré que l'amertume était principalement liée aux problèmes économiques et à l'inflation, en particulier des denrées alimentaires et autres produits de première nécessité qui met sous pression les couches inférieures de la société. Cependant, l'honorable Ayatollah Khamenei a noté qu'il y avait aussi des actions économiques positives. Celles-ci, a-t-il espéré, devraient conduire à l'amélioration des moyens de subsistance des personnes grâce à une planification précise. Le leader de la révolution islamique a également appelé les responsables à se concentrer sur la question des investissements en tant que besoin sérieux. L'honorable Ayatollah Khamenei a déclaré que les évolutions dans son ensemble appellent à prêter attention à la production nationale en tant que clé pour sauver le pays des défis économiques, y compris l'inflation. Le président iranien Ebrahim Raisi a également déclaré que la lutte contre l'inflation et la réalisation d'une croissance économique durable étaient les principaux objectifs de son administration pour la nouvelle année iranienne. Dans ses vœux de Nowruz et du nouvel an iranien, le président de la République islamique d'Iran, Seyed Ebrahim Raisi, a déclaré que le programme principal du gouvernement iranien en 1402 serait le contrôle de l'inflation ainsi qu'agir pour une croissance économique durable. J'assure notre cher peuple qu'au cours de la nouvelle année, les efforts de vos serviteurs au sein du gouvernement pour tenir les promesses telles que l'amélioration des moyens de subsistance du peuple, la lutte contre la corruption, la maîtrise de l'inflation, le renforcement de la production et l'augmentation de l'emploi se seront sans interruption et 24 heures sur 24. Toujours dans son message de Nowruz, à l'adresse de la nation iranienne, il a félicité l'arrivée de l'année 1402 iranienne et la coïncidence de la fête de Nowruz avec le mois sacré du Ramadan et a déclaré « L'année 1401 était très tumultueuse. Elle était marquée à la fois par l'amertume et la douceur des hauts et des bas. Mais si je veux le résumer en une phrase, l'année 1401 était l'année de la puissance du peuple et de l'héroïsme de la nation iranienne qui a su être brillante au moment décisif. » Le président Raisi revient également sur les réalisations de son administration au cours de l'année écoulée. Il a déclaré que l'Iran avait connu une augmentation de la production et une baisse record du chômage. En matière de la politique étrangère, le président Raisi a déclaré que son gouvernement poursuivait une diplomatie équilibrée, ce qui signifie que l'Iran n'a pas attendu les pays qui n'étaient pas sûrs de leurs relations. Il a déclaré que l'Iran avait également suivi une politique visant à relancer les relations régionales et de bon voisinage. Le président iranien a déclaré que son pays jouissait d'une position stratégique et inégalée dans la région et que son gouvernement prévoyait de mettre en exploitation ce potentiel. Le président Raisi a également déclaré que l'une des caractéristiques du nouvel ordre mondial est de transférer le pouvoir vers le continent asiatique et que les États-Unis assistent à un déclin de leur rôle et de leur hégémonie dans le monde. Le président iranien Ebrahim Raisi avait plutôt félicité dans un message l'arrivée de Nowruz et le nouvel an iranien aux dirigeants des pays qui célèbrent, tout comme l'Iran, cette fête. Il a souhaité que la nouvelle année iranienne soit celle de bienveillance pour les dirigeants et le peuple des pays qui célèbrent le Nowruz. Le ministère algérien des Affaires étrangères a déclaré lundi que l'accord signé entre l'Arabie saoudite et la République islamique d'Iran contribuerait à renforcer la sécurité dans la région ainsi qu'à défendre la cause palestinienne. Cette déclaration fait partie d'un communiqué publié par le ministère après que le vice-ministre algérien des Affaires étrangères, Amar Balani, a reçu l'ambassadeur saoudien en Algérie. M. Balani a salué la décision de l'Arabie saoudite et de la République islamique d'Iran de rétablir leurs relations diplomatiques. Cette mesure positive renforcera la sécurité et la stabilité dans la région et améliorera la capacité des pays arabes et musulmans à répondre collectivement et efficacement aux défis et aux dangers actuels et à défendre les intérêts vitaux de l'Umma islamique, au premier rang desquels la juste cause du peuple palestinien. Et enfin, un ministre israélien a de nouveau provoqué l'indignation après avoir affirmé qu'il n'existe pas de peuple, d'histoire ou de culture palestinien. Le premier ministre palestinien a qualifié ses propos d'incendiaires. Le premier ministre palestinien a ajouté que la terre de la Palestine appartient au peuple palestinien et qu'Israël est une entité coloniale. il a déclaré que l'histoire a montré que le colonialisme est voué à disparaître et qu'il prendra fin, et que de telles fausses déclarations tenues par les Israéliens ne pouvons pas ébranler la volonté des Palestiniens. Le ministre israélien Smotrich a rejoint le cabinet de la ligne dure du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou l'année dernière. Il a l'habitude de tenir des déclarations provocatrices et incendiaires contre les Palestiniens. En février, il avait demandé que la ville palestinienne de Houvara, en Cisjordanie occupée, soit anéantie après que deux Israéliens y avaient été abattus. Ces déclarations ont suscité l'indignation internationale. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Restez à l'écoute de notre commentaire politique. Droits de l'homme, les allégations contre l'Iran sont de la pure hypocrisie. La République islamique d'Iran a vivement critiqué les prétentions de certains pays à défendre les droits de l'homme du peuple iranien, tout en privant les Iraniens de leurs droits fondamentaux, notamment par l'imposition de sanctions unilatérales. Ali Bahreini, ambassadeur permanent de la République islamique d'Iran auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, en Suisse, a fait cette remarque lundi lors d'une réunion du Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies. Il a déclaré que le comportement de ceux qui privent la nation iranienne de ses droits fondamentaux, tout en prétendant défendre les droits de l'homme, n'est rien d'autre que de la pure hypocrisie. C'est de la pure hypocrisie que de prétendre que les auteurs de crimes contre le peuple iranien défendent les droits de l'homme des Iraniens et présentent des projets de résolution contre la République islamique d'Iran tout en privant ce même peuple de ses droits fondamentaux à la santé, à l'éducation et à la vie, a déclaré l'ambassadeur iranien. Le diplomate iranien a également critiqué les rapports biaisés sur la situation des droits de l'homme en Iran, y compris celui du rapporteur spécial des Nations Unies, Javid Rahman, qui s'est également adressé à la session du Conseil lundi avant le discours de l'ambassadeur iranien. L'ambassadeur iranien a déclaré que les rapports biaisés ignoraient les réalités sur le terrain en Iran, ajoutant que Rahman s'était abstenu de mentionner les attaques terroristes soutenues par l'étranger dans le pays, qui ont entraîné la mort des dizaines de membres des forces de sécurité et de personnes innocentes. Dans une autre partie de son intervention, M. Bahreini a évoqué le rôle des médias soutenus par l'étranger dans l'incitation au terrorisme dans le pays. L'ambassadeur iranien a déclaré que des centaines de chaînes de télévision et de radio basées à l'étranger, ainsi que des réseaux sociaux, encourageaient la violence en Iran en fournissant des tutoriels sur la manière de fabriquer des armes et de s'engager dans un conflit armé. Des émeutes ont éclaté en Iran à la mi-septembre après la mort d'une Iranienne de 22 ans en garde à vue. Mahsa Amini s'était évanouie dans un poste de police à Téhéran et a été déclarée morte 3 jours plus tard dans un hôpital. Un rapport officiel de l'Organisation iranienne de médecine légale a conclu que la mort d'Amini était due à une maladie plutôt qu'à des coups présumés portés à la tête ou à d'autres organes vitaux du corps. Les gouvernements et les médias occidentaux ont profité de l'occasion pour provoquer de violentes émeutes dans le pays. L'Iran a immédiatement diffusé des images de vidéosurveillance montrant la jeune femme s'évanouissant dans un poste de police avant d'être transférée à l'hôpital, mais les émeutiers se sont déchaînés, attaquant brutalement les agents de sécurité et infligeant d'importants dégâts aux biens publics. Des dizaines de personnes et de membres de personnel de sécurité ont été tués au cours des émeutes. Les remarques de M. Bahreini sont intervenues après la présentation par M. Rahman de son rapport au Conseil des droits de l'homme, dans lequel il prétend que les autorités iraniennes ont commis ces derniers mois des violations pouvant être assimilées à des crimes contre l'humanité, notamment en réprimant des émeutes violentes soutenues par des étrangers. L'ambassadeur d'Iran a déclaré que les allégations de M. Rahman étaient imaginaires et que la République islamique d'Iran était pointée du doigt et pris pour cible par le Conseil. Certains tentent de faire de leur fantasme la réalité de la situation en Iran, a-t-il conclu.
Bonjour à tous, bienvenue ici à partir de la capitale iranienne, Téhéran. Aujourd'hui, nous allons voir et nous allons discuter des exercices militaires en commun qui ont lieu avec l'Iran, la Russie et la Chine. On va voir notamment que plus les pressions montent, plus les alliances se font de plus en plus fortes. C'est le sujet d'aujourd'hui. Nous ferons venir donc nos invités, deux invités, dont un iranologue, qui discuteront donc de la situation. Nous revoilà donc sur les plateaux. Donc nous allons tout d'abord faire venir nos invités. Nous commençons donc par M. Arnaud Develet, un de nos experts, notamment concernant la Russie, juriste international. Bonjour M. Develet, ravi de vous avoir avec nous sur les plateaux. M. Develet, alors moi je ne vous entends pas, mais je crois que vous m'entendez. Alors moi je ne vous entends pas. Je vais laisser faire la régie. Alors, deuxième invité étant M. Morgan Lotz, notre iranologue du jour, notre expert, également juriste international. Bonjour Monsieur Lotz, ravi de vous avoir avec nous.
Bonjour à vous, le plaisir est partagé. Je tiens à saluer mon collègue avec qui nous allons débattre aujourd'hui.
C'est toujours un plaisir d'accueillir nos experts qui répondent toujours gracieusement donc à nos débats et à nos interviews. Monsieur Lotz, par rapport aux exercices qui se sont passés il y a quelques jours, nous avons entendu beaucoup de mots, beaucoup de techniques en matière d'exercices militaires, mais je pense que le mot le plus important étant la communication. En effet, trois armées ont fait cet exercice militaire, trois armées avec trois langues différentes, et je pense que l'une des choses plus crucial de ces exercices a été trouver une communication, un langage pluridisciplinaire afin de pouvoir communiquer plus efficacement. On a bien vu avec la guerre en Ukraine comment la communication est importante. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette expertise sur le fait que ça a été vraiment le challenge de ces exercices militaires ?
Tout à fait. Donc ces exercices baptisés PhotoEx qui se sont déroulés dans le cadre des manœuvres navales ceinture de sécurité maritime 2023 ont donc regroupé les marines chinoises, russes et iraniennes, ainsi que deux autres pays, notamment le Pakistan et le Tadjikistan, en tant qu'observateurs, comme vous l'avez dit dans le reportage. Donc, pour moi, il y a deux aspects à cet exercice qu'il faut souligner. C'est tout d'abord les objectifs, qui sont de renforcer la sécurité du commerce maritime international, de lutter contre la piraterie et le terrorisme maritime. Vous avez notamment cité un exercice réalisé par les commandos marines de chaque pays participant qui consistait à libérer un navire retenu prisonnier par des pirates. Mais c'est également l'échange d'informations et de savoir-faire des différentes marines participantes qui est important.
Monsieur Lott, est-ce que vous êtes là? Donc je vais voir si notre deux invités, on est capable de pouvoir le joindre. Monsieur Develay, est-ce que vous êtes là?
Oui, je vous entends.
Ah, super. Et moi aussi, je vous entends. Alors, vous avez entendu la question que j'ai posée à M. Morgan Lotz, étant continué sur cette voie-là. Donc, je parlais de l'importance de la communication et d'un langage pluridisciplinaire en ce qui concerne trois pays, encore une fois, je le répète, qui parlent trois langues différentes. Est-ce que ça a été un peu le challenge de donc, ces exercices militaires?
Écoutez, je pense que c'est quelque chose qui doit être intégré forcément dans les exercices entre les trois pays. Ce qu'il faut garder à l'esprit, avant toute chose, c'est dans un contexte de renforcement des alliances plus ou moins entre ces trois pays, qui sont vraiment les trois principaux acteurs de l'axe eurasiatique. On s'aperçoit qu'au-delà des accords économiques, aujourd'hui on a la visite du président chinois à Moscou, et on s'aperçoit donc que l'aspect sécuritaire est prééminent et qu'on peut penser que malgré l'appellation officielle qui porterait sur une lutte contre la piraterie, je pense qu'il s'agit surtout d'envoyer un message aux Américains de ne pas être tentés par un aventurisme militaire qui verrait les Américains et leurs alliés israéliens essayer quelque chose contre la République islamique d'Iran. Je pense que c'est plutôt dans ce contexte-là qu'il faut interpréter les exercices maritimes qui se sont terminés aujourd'hui ou hier.
Est-ce que vous évoquez notamment le problème qu'il y a avec Taïwan ?
Oui, bien sûr, Taïwan est une autre composante effectivement de l'aventurisme militaire américain, une puissance en déclin qui essaye par tous les moyens de renverser la table pour se racheter une conduite. Donc on a bien sûr la Crimée, qui fait partie des objectifs du régime fantoche qui est bien. Mais on a, comme vous l'avez souligné, Taïwan, bien sûr, qui est en fait une casserole qui est en train de bouillir et dont on peut penser qu'à un moment ou un autre, elle sera activée. Mais aussi, et encore une fois, concernant votre pays, les menaces incessantes qui reviennent à la surface. On a vu que par exemple, le mécanisme INSTEX avait été annulé, donc ça met un terme une fois pour toutes à cette comédie des erreurs et ce théâtre d'ombre de l'accord sur le nucléaire de 2015. Et les menaces récentes, effectivement, formulées par le gouvernement Netanyahou, qui se trouve lui-même en plus englué dans une crise domestique, et je pense que dans ce genre de scénario, un conflit à l'extérieur pour solidifier son autorité à l'intérieur serait certainement le bienvenu pour lui. C'est son obsession depuis des années. Et je pense que, encore une fois, ces manœuvres visent à envoyer un message que toute tentative de violer l'intégrité territoriale de la République islamique d'Iran serait répondue de manière ferme. Et l'Iran n'est pas seul. Elle pourra compter sur ses alliés pour maintenir la stabilité dans le golfe Persique.
Et c'est aussi, vous l'avez dit,
ouverture, une invitation à tous les autres pays qui partagent une rive du golfe Persique à regarder leurs intérêts comme étant liés à celui de la République islamique d'Iran en ce qui concerne la sécurité de la région.
Merci, M. Develay. M. Lott, bien de retour avec nous. Alors, mon autre question, c'est, il y a un diplomate chinois qui a indiqué que plus les pressions se font, plus les alliances seront beaucoup plus solides. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que finalement, on en arrive là? Ces alliances, on en rêvait il y a 10 ans, il y a même 5 ans, des alliances fortes entre la Russie, l'Iran et la Chine. Et c'est juste en l'espace de 12 mois, ces alliances sont en train de se réaliser de manière très forte et de manière assez régulière, parce que la Chine et la Russie ont également eu des exercices ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord donc avec les propos tenus par le diplomate chinois?
Oui, je suis tout à fait d'accord. Et justement, ça me permet de rebondir sur l'instant où j'ai été coupé. C'est que cette formation d'une force navale commune, c'est l'établissement d'une dissuasion régionale contre toute intervention extra-régionale. Donc, évidemment, la Chine, la Russie, l'Iran, qui sont sans cesse pointés du doigt par les Occidentaux, enfin, disons, de manière plus réaliste les Américains et leurs laquais européens, parce que les Européens n'ont pas une marge de manœuvre, ils suivent aveuglément la politique de Washington. Ce regroupement des pays que les Occidentaux tentent de mettre au banc des nations ne peut que pousser à créer des alliances. Vous savez, c'est comme dans une cour d'école. Il y a toujours un petit chef de bande qui décide qui est fréquentable. Et au bout d'un moment, ben, les écoliers qui sont plus fréquentables, ils se regroupent entre eux et ça fait une deuxième bande. C'est exactement ce qui se passe à l'échelle internationale. Et on constate que ces alliances qui n'avaient pas lieu il y a encore 5 ans, 10 ans, se mettent en place tout doucement. Alors certains diraient qu'il est temps qu'elles se mettent en place. On attend ça depuis pas mal d'années, que les États-Unis cessent leur politique mafieuse dans le monde entier, parce que c'est une politique de racket. Hein. Si vous n'êtes pas soumis aux États-Unis, vous êtes un pays terroriste, une dictature, et tous les qualificatifs peu flatteurs qui vont avec. Et on peut prendre un exemple, c'est que c'est ce renforcement également des capacités navales de l'Iran. La Russie et la Chine ont des marines assez conséquentes et assez bien entraînées.
Et ils ont toujours eu ces marines. Excusez-moi de vous interrompre, je donne une information supplémentaire. Ils ont toujours eu ces marines. La marine russe et la marine chinoise existent depuis un certain temps. Il est vrai que la marine iranienne, elle, a vu des progrès spectaculaires après la révolution islamique. Ça a été un de leurs objectifs. Donc le fait de participer à l'échelle de deux nations qui sont très avancées d'un point de vue naval, est-ce que, selon vous, c'est un message fort également pour montrer que les propos tenus par l'armée iranienne n'est pas que des propos, des simples paroles, et que le matériel, lui, il est là?
Tout à fait. C'est ce que je souhaitais dire. Il y a encore 10 ans, l'Iran n'était pas en mesure de faire ses manœuvres. L'Iran avait une petite marine qui a été totalement décimée pendant la guerre imposée par l'Irak. Et on constate qu'en 20 ans, l'Iran a été capable de recréer une marine. C'est assez exceptionnel. Surtout pour un pays qui est sous sanction, puisque on peut prendre l'une des meilleures marines au monde, qui est la marine française, il a fallu pratiquement 60 à 70 ans pour recréer une flotte capable de naviguer sur les eaux du monde entier et d'affirmer la puissance. L'Iran l'a réussi en 20 à 30 ans, ce qui est tout à fait exceptionnel, d'autant plus qu'il y a des sanctions internationales qui empêchent certains matériaux, certains composants d'être dans le cadre d'un commerce avec l'Iran. Donc oui, ce qu'a fait l'Iran, c'est tout à fait exceptionnel. Et le fait que la marine iranienne soit intégrée à des exercices navaux avec deux grandes marines, comme les marines russes et chinoises, prouve, s'il fallait encore le prouver, que l'Iran n'est plus un petit pays, contrairement à ce que l'on peut prétendre dans les médias occidentaux. Mais l'Iran est aujourd'hui une véritable puissance. En témoigne encore sa mission diplomatique menée au Brésil, où deux navires de la flotte iranienne ont traversé l'océan Pacifique. Ils sont d'ailleurs passés à proximité de la Polynésie française, ce qui avait fait un peu de bruit dans les médias français qui s'étonnaient de voir des navires iraniens. Mais oui, il n'y a plus lieu de s'étonner. Aujourd'hui, l'Iran retrouve sa place de grand empire, ce que l'Iran a toujours été.
Merci, Monsieur Loss. Monsieur Develay, alors on sait qu'après Bakhmout, surtout au printemps, on s'attend à un conflit beaucoup plus fort en Ukraine. Le matériel militaire passe par la Pologne. On sait que ce matériel est prêt. Les Russes se préparent à cette nouvelle attaque. J'ai envie de dire, est-ce que le fait de montrer ces exercices, le fait que M. Xi Jinping vienne aujourd'hui en Russie, c'est une manière d'alerter la communauté internationale de ne pas aller vers une guerre mondiale, que la Russie n'est pas seule? Est-ce que c'est un message pour permettre peut-être un frein, encore une fois, à la folie guerrière qu'il peut y avoir en Ukraine ou même auprès de l'OTAN?
Bah écoutez, on pourrait le penser si on avait affaire à des acteurs rationnels de l'autre côté. Malheureusement, avec les néoconservateurs américains, on s'aperçoit que ce sont des gens qui ne connaissent pas la marche arrière. Ils sont dans une logique idéologique qui leur fait perdre contact avec la réalité. Qui plus est, la plupart des acteurs de cette mouvance sont souvent promus, malgré leurs échecs et leur aventurisme militaire calamiteux. Ce qui laisse penser que, quoi qu'il puisse arriver, comme disait Napoléon, si tu veux la paix, prépare la guerre. Et dans ce contexte-là, je pense que les dirigeants des trois pays en question ont parfaitement intégré qu'ils ne, Il ne faut pas compter sur une sorte de forme de logique ou de rationalité de la part des Américains. C'est une bête blessée. La bête est blessée, elle n'est donc jamais plus dangereuse que lorsqu'elle est blessée. Plutôt que de remettre en cause son désir hégémonique et de s'asseoir et devenir un pays comme les autres qui obéit à certaines règles de bon aloi, elle considère qu'il y a encore une possibilité d'extraire la victoire des mâchoires de la défaite. Et dans ce contexte-là, il convient de se préparer. Et c'est un exercice de long terme. C'est un marathon, non pas un sprint. Il faut travailler d'arrache-pied parce qu'il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire, surtout dans un contexte de fuite en avant.
Est-ce que ça pourrait empêcher d'attaquer la Russie directement? Parce que pour l'instant, le front reste en Ukraine, même si c'est les territoires annexés, donc ils sont russes, on le sait, mais ça reste sur ces fronts-là. Est-ce que ce genre d'invitation, ce genre d'image, ce genre d'exercice militaire pourrait empêcher le fait qu'on va vers une escalade, c'est-à-dire on attaque directement le territoire russe et non pas le territoire annexé?
Et moi, je pense que pour ce qui porte sur les régions donc, du Donbass, donc la Russie maintenant, Novorossiya, je pense que la Russie contrôle la situation. Il n'y a absolument aucun souci. On en avait parlé précédemment. L'Ukraine n'aura bientôt plus les moyens de ses ambitions. On parle d'une contre-offensive de printemps. Moi, je n'y crois pas trop parce qu'ils n'ont pas de munitions, tout simplement. Ils n'ont pas de réservoir humain pour mener à terme une telle contre-offensive. Non, je pense surtout qu'il faut prendre en compte l'idée d'une multiplication des théâtres d'opération. Et donc l'idée, c'est effectivement de rattraper éventuellement ce qui peut apparaître comme un retard vis-à-vis de l'OTAN, à savoir une synergie qui permettrait de pouvoir administrer et confronter les Atlantistes sur plusieurs théâtres simultanément, de telle sorte que et les uns et les autres dans leur zone, que ce soit la Chine à Taïwan, la République islamique d'Iran dans le Golfe Persique ou la Russie pour ce qui porte sur les nouvelles républiques qui ont été intégrées maintenant, chacun puisse non seulement maintenir ses avantages tactiques et stratégiques dans leur zone, mais aussi simultanément agir en synergie afin d'ajouter, si j'appelle, un apport qualitatif dans les uns ou les autres de ces théâtres d'opération et renverser complètement la donne.
Alors, je ne sais pas si vous-même, vous trouvez où actuellement, à Moscou ou à Damas ?
À Moscou.
Alors, il s'avère qu'en plus de la venue de M. Xi Jinping, donc le président chinois, le représentant en chef de la République populaire de Chine, il y a également un forum africain à Moscou. Donc, beaucoup de choses se passent à Moscou à l'heure actuelle. Tout ça, bien entendu, on connaît Poutine. On sait que, d'un point de vue des affaires étrangères, il est extrêmement sensible à ce que tout soit en symbiose. On l'a bien vu avec l'expérience de la Syrie. Est-ce que voilà, tout ça, c'est bien manœuvré afin de faire en sorte qu'il y ait une sorte de cohésion de groupe, et le continent africain étant l'une des points les plus importants si on doit regarder la politique internationale de la Russie?
Oui, absolument. Bah, vous l'avez bien souligné, c'est ce qu'on appelle la conférence Afrique-Russie qui a lieu donc tous les ans avec des personnalités du panafricanisme qui sont présentes pour quelques jours. Il y aura donc des consultations au plus haut niveau et ça va sans dire que c'est un balai diplomatique et militaire et économique. L'axe eurasiatique est en train de se renforcer jour après jour. Et de toute évidence, l'Eurasie a vocation à attirer vers son modèle de prospérité et de développement des régions qui ont été souvent, ces derniers siècles, sous le joug européen, à savoir l'Afrique, qui a bien saisi dans quel sens le vent était en train de tourner et qui accélère elle-même à des degrés divers en fonction des zones du continent noir, en tout cas son émancipation, une fois pour toutes, du format Berlin 1884, ça c'est certain.
Merci Monsieur Develay. Monsieur Lotz, merci de nous rejoindre. Alors, il s'avère que là, à l'heure actuelle, Moscou, comme l'a dit Monsieur Develay, Maître Develay, donc accueille Monsieur Xi Jinping, mais pas seulement, puisqu'il y a le forum africain également qui se passe dans les mêmes délais, dans la même journée. Vous-même, qui suivez certainement la situation juriste internationale, on sait qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment, entre les banques qui font faillite, entre la crise et l'inflation, qui est finalement une dévaluation de la monnaie. C'est le genre d'exercice militaire qui permet de renforcer la sécurité. On pense beaucoup à la mer Noire. Vous-même, comment vous interprétez tout ce qui se passe, ce ballet diplomatique qui se passe à l'heure actuelle entre ces trois pays, mais qui se rejoint avec le continent africain?
Justement, le lieu des manœuvres n'est pas anodin. Et nous éclaire justement aussi sur une volonté de ces puissances eurasiatiques de sécuriser l'économie mondiale et le commerce et de ne pas laisser l'Occident et notamment les Américains gérer ces questions tout seuls. Donc où ont eu lieu ces manœuvres? C'est dans le nord de l'océan Indien. Et c'est entre trois détroits stratégiques, donc à savoir les détroits d'Ormuz, les détroits de Malacca et le détroit de Bab el-Mandeb, qui sont ce que l'on appelle l'ellipse énergétique mondiale. En effet, 21% de la production mondiale de pétrole passe par le détroit d'Ormuz, qui nous donne une moyenne de 20 à 21 millions de barils par jour. Le détroit de Malacca, c'est 20% du trafic mondial des marchandises, soit 85 000 bateaux par an. Et c'est également un passage stratégique pour les hydrocarbures, hein, 80% des importations japonaises et 90% des importations chinoises. Quant au détroit de Bab el-Mandeb, il est situé au sud du Yémen, donc c'est le point de passage entre la mer Rouge et l'océan Indien. Et c'est là aussi un passage stratégique, puisqu'il transite 68% du pétrole à destination de l'Europe et 16% du pétrole à destination des États-Unis. Donc ces chiffres-là, ça nous donne tout de même 79% du pétrole et du gaz acheminé qui provient du Moyen-Orient. Donc, prouver aux Occidentaux que l'Eurasie gère l'océan Indien et est capable d'y assurer la sécurité aussi bien militaire que maritime et économique, c'est démontrer d'une part aux Occidentaux que ce ne sont plus eux qui font la loi et décident de qui a accès aux richesses ou non, et c'est également prouver au continent africain qu'une autre possibilité de développement est possible et qu'ils ne sont plus soumis aux diktats des anciennes puissances coloniales et des États-Unis, mais que voilà, s'ils veulent faire affaire avec le continent asiatique, qui sera certainement plus intéressant pour eux, ils peuvent commercer avec le continent asiatique et les puissances de cette région du monde sans subir des représailles américaines et occidentales. Alors, tout n'est pas encore réglé, puisqu'on pense à Djibouti, où il y a plusieurs présences militaires, notamment une présence militaire française depuis 1977, américaine depuis 2002, japonaise depuis 2011 et italienne depuis 2012. Il y a d'ailleurs aussi un accord militaire entre la Chine et Djibouti depuis 2017. Donc on peut constater un changement d'orientation de Djibouti qui s'ouvre davantage vers l'Asie, ce qui est aussi un retour aux sources, puisque Djibouti et le Yémen situés en face ont un grand passé de commerce et de routes maritimes commerciales avec la Chine et l'Iran notamment.
Il ne faut pas oublier non plus que la partie est du continent africain subit beaucoup de piratage, normalement, notamment dans le centre-est.
Oui, tout à fait, notamment la Somalie, qui est toujours en proie à des troubles avec les rebelles Shebab notamment. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des présences navales françaises, américaines, avec la 5e flotte des États-Unis qui est stationnée dans le golfe d'Aden, et assez récemment, une présence navale russe. On peut imaginer à l'avenir des présences navales chinoises, voire même iraniennes, qui soient renforcées. Quoique pour l'instant, Djibouti a refusé de voir s'installer des bases russes et iraniennes sur son territoire. Mais peut-être qu'avec le changement de paradigme mondial que nous connaissons ces derniers temps, les Russes et les Iraniens pourront s'installer à Djibouti. En tout cas, ce serait une grande victoire géopolitique et aussi un moyen pour l'Iran de poursuivre sa course, sa route vers l'affirmation de ses capacités, de sa puissance.
Les propos de conclusion de ce débat. Je vous remercie, qui ouvre également à une autre question, bien entendu, mais malheureusement, il y a un temps imparti. Je vous remercie à M. Lotz et M. Develé d'avoir accepté notre invitation pour ce débat, d'avoir pu nous partager vos connaissances sur le sujet. Vous, chers spectateurs, je vous remercie, chers auditeurs, de nous suivre. N'hésitez pas à regarder nos différentes vidéos sur nos plateformes, notamment le site internet et VK ainsi que Telegram. programme. Je vous dis donc à une prochaine fois pour un autre sujet du débat, ici, à partir de la capitale iranienne, Téhéran, dans les studios de Presse TV. Au revoir.
Histoire des sciences en Iran. L'année 2022 a été nommée l'année internationale des sciences fondamentales pour le développement durable et est célébrée dans le monde entier. Dans ce programme, nous allons essayer de vous familiariser avec le brillant passé des sciences fondamentales en Iran et les figures de proue dans ce domaine. Ce programme vise à faire connaître les acquis uniques d'une nation qui est restée inconnue malgré ses innombrables services à l'humanité. Bonjour, chers auditeurs. Dans ce programme, nous présenterons deux autres entreprises basées sur le savoir, Fanavaran Sader Espadana et Kushof Impulse. Merci d'être avec nous. La société Fanavaran Sader Espadana a été créée en 2008 dans le but de fabriquer des pièces et des équipements nécessaires aux industries et aux unités de production en Iran. L'unité de conception de cette société a toujours essayé d'utiliser les dernières technologies dans le monde afin d'optimiser et d'augmenter la capacité de production des machines et des équipements de production de cette société. La gamme de services et de produits de cette société est considérée comme une solution globale dans les domaines des industries des polymères, des industries alimentaires, des industries pétrolières et gazières et pétrochimiques, des industries militaires, des industries sidérurgiques et cimentières et de la construction d'automobiles. Parmi les produits populaires de la société Fanavaran Sader Espadana, on peut mentionner toutes sortes de mélangeurs homogénéisateurs, toutes sortes de machines de presse à pilules, à granulés, ainsi que toutes sortes de machines de remplissage et d'emballage. Cette société est productrice de toutes sortes de mélangeurs de laboratoire et sous vide pour la production de toutes sortes de produits pharmaceutiques et de santé, est l'un des meilleurs fabricants de machines de l'industrie pharmaceutique et de la santé en Iran, et la qualité de ses produits est le plus grand avantage concurrentiel sur les marchés nationaux et internationaux. Les mélangeurs fabriqués par la société ont 7 modèles, dont le mélangeur homogénéisateur de base, le mélangeur homogénéisateur de laboratoire et le dispositif de traitement sous vide. Différents types de presse à pilules et de machines de production de comprimés et de la pesée des granules sont un autre produit populaire de cette société qui a été produit avec une excellente qualité, un prix très raisonnable, introduit sur le grand marché de l'Iran et du monde. Les machines à comprimés à granulés de cette société ont 4 modèles, la presse à comprimés de 20 tons et la presse à comprimés hydrauliques sont des exemples de ces produits. Un autre produit populaire de la société Fanavaran Sader Espadana est une variété de machines de remplissage et d'emballage, telles que les machines de remplissage de liquide et d'emballage sous blister avec une qualité de production très élevée. Cette société est l'un des meilleurs fabricants de machines sanitaires, pharmaceutiques et d'emballage en Iran. la machine à coudre pour les tubes de crème, le remplissage semi-automatique et la machine d'emballage sous blister sont des exemples de ces machines. La société d'ingénierie Kushafampars est une autre société iranienne de savoir dont nous parlerons brièvement dans ce programme. Cette société a été créée en 1994 et opère dans le domaine de la production d'équipements dentaires et fournit des consommables. Kushafampars est le plus grand producteur de matériel et de fournitures dentaires dans le pays. La société de savoir investit dans le secteur de la recherche et du développement et vise à développer la technologie dans le domaine de la conception, de la fabrication et de la production d'équipements liés à l'industrie dentaire. Actuellement, les produits de la société de la plus haute qualité à un prix compétitif sont utilisés pour les consommateurs du monde entier par rapport à d'autres marques similaires. Les fours de laboratoire dentaire comprennent les fours en porcelaine entièrement automatique AT100 et AT300, les fours de pressage entièrement automatique AT300P, les fours en porcelaine entièrement automatique AT3000, les fours de frittage en zircon. Les produits fabriqués par cette société sont divisés en deux groupes, laboratoire et formation clinique. Cette entreprise est arrivée à obtenir son permis d'activité en 2017 en tant qu'entreprise manufacturière basée sur le savoir. Le principe de la technologie principale et la synchronisation avec la science et la technologie du monde d'aujourd'hui sont le résultat de la relation étroite de l'entreprise avec les universités à l'intérieur, à l'extérieur du pays, et les centres scientifiques et de recherche, et le résultat en peut être clairement vu dans la variété et la qualité de produits fabriqués dans la société Kushafampars. Cette société de savoir s'appuyant sur le principe de la ferme croyance de la recherche et le développement durable a été en mesure de produire 24 produits basés sur le savoir en recevant des certifications telles que ISO 9001, ISO 10002. Par ailleurs, Kushafampars est la première entreprise économique de savoir active dans le domaine dans l'industrie dentaire. La contribution de cette entreprise à tous les colloques scientifiques tenus dans les années passées et présentes est une étape très importante dans la création de la culture syndicale et de la synergie au sein de la grande famille des dentistes du pays. En outre, cette société a eu toujours une participation active dans des expositions internationales telles que des expositions dentaires spécialisées en Allemagne et aux Émirats arabes unis. Les produits de cette société comprennent les implants dentaires, les pièces prothétiques conventionnelles, les prothèses amovibles numériques, les fours de laboratoire dentaire, les tables dentaires, l'aspiration multi-usage, la polisseuse, le matériel stérile, etc. Comme nous l'avons dit, les fours de laboratoire dentaire sont des produits de la société Kushafampars. Cette société a produit 7 modèles de fours dentaires. L'un des produits les plus populaires de cette société est le four à porcelaine 100. Cet appareil est utilisé pour cuire de la poudre de porcelaine et dégazer toutes sortes d'alliages sous vide jusqu'à 1200 degrés Celsius, ce qui permet d'exécuter 100 programmes différents pour la cuisson. Les tables dentaires sont les autres produits fabriqués par la société du savoir Kushafampars. Plus précisément, la société produit 5 modèles de tables dentaires. General Box est l'un des modèles de tables de travail dentaires. General Box est un ensemble intégré qui comprend un micromoteur pour tourner, aspirer, verser de l'air, ainsi qu'un écran de protection, etc. Un traitement dentaire facile et sûr, avec une hygiène personnelle et environnementale élevée, est possible en utilisant ce produit. Parmi les équipements stériles de cette entreprise, on peut également citer des produits de nettoyage à la vapeur, un dentaire autoclave dentaire de type P. Le lavage à la vapeur est une méthode courante et efficace pour nettoyer les modèles et prothèses dentaires amovibles et fixes, et les outils, éliminer les résidus du cire des modèles, etc., dans le domaine de la dentisterie. Le nettoyeur vapeur pour cabinet dentaire est un autre matériel dentaire produit par la société Kuchoff & Pors. Il s'agit d'un produit dont l'utilisation est simple et qui est d'une sécurité fonctionnelle élevée et d'un beau design afin de répondre aux besoins maximum des dentistes en Iran.
Thank you.